La revue de presse internationale, bonjour Camille Magnard.
Bonjour.
C'est assez rare pour être remarqué, aujourd'hui la presse britannique ne titre pas sur le Brexit.
Oui, même s'il y a des titres comme celui du Times qui semblent tout de même y faire implicitement référence. Une dose d'aspirine par jour aide à lutter contre la dépression. C'est le genre de conseil santé qui devrait intéresser tous les journalistes basés à Londres. Mais non, vérification faite, rien à voir avec le Brexit. Avec Boris Johnson, à en croire cette fois le Guardian, ce serait plutôt un vote par jour à la Chambre des communes aide à obtenir enfin l'organisation d'élections législatives anticipées, puisque c'est bien cela qui occupe désormais tous les esprits outre-Manche. Depuis hier, le Royaume-Uni sait avec certitude qu'il ne se passera rien vendredi, ce 1er novembre qu'on nous annonçait comme la date du Brexit ou bien de l'apocalypse, quoi qu'il arrive. Finalement, les 27 se sont accordés pour repousser l'échéance une fois de plus au 31 janvier 2020. Alors, les Britanniques se concentrent sur leur crise politique interne, indissociable, il est vrai, du Brexit. Pour faire oublier son échec à obtenir le Brexit dès vendredi, analyse de Daily Telegraph, le Prime Minister Johnson remet le dossier au congélateur quelque temps et concentre ses efforts donc sur la bataille des élections. Il veut un scrutin le 12 décembre. Il a proposé hier une loi spéciale pour fixer la date, mais il n'a pas obtenu, et de très loin, la majorité des deux tiers prévus par le droit britannique. Alors, Boris Johnson va retenter le coup aujourd'hui, avec tout de même une subtilité. Il ne présentera cette fois à la Chambre qu'une loi ordinaire. Une ligne disant des élections législatives anticipées devront se tenir le 12 décembre. Point. Il n'aura besoin cette fois pour la faire adopter que d'une majorité simple et il a de sérieuses chances d'y parvenir, à en croire Metro UK, selon qui le chef de file des travaillistes, Jeremy Corbyn, est sur le point de se faire avoir par la bande, pour reprendre un terme de billard. Lui qui a réussi à bloquer le vote hier, Jeremy Corbyn, donc, pourrait être impuissant aujourd'hui à ce qu'une majorité contre nature se forme en faveur d'une élection avant Noël.
Pourquoi une majorité contre nature ?
Eh bien parce que tout à l'heure, des groupes parlementaires opposés pourraient voter ensemble en faveur du scrutin du 12 décembre. Les conservateurs de Boris Johnson, bien sûr, mais aussi, selon The Independent, les libéraux-démocrates, de fervents détracteurs du Brexit, qui sont donc dans l'opposition, mais qui espèrent bien tirer leur épingle du jeu dans une élection à venir. Idem, plus surprenant encore pour les indépendantistes écossais du SNP, ennemi farouche de Bojo sur la question du Brexit, mais tenté par une alliance de circonstances avec le Premier ministre sur ce scrutin anticipé qu'ils voudraient, eux, organiser le 9 décembre. Pour le journal The Independent, il y a donc un accord gagnant-gagnant qui pourrait prendre forme entre Boris Johnson et le SNP écossais. Une possible majorité anti-Brexit à la Chambre des communes, c'est ce que souhaitent les indépendantistes écossais, pourrait imposer un deuxième référendum sur le Brexit. C'est ça le but du SNP, et pourquoi pas donc l'abandon complet à l'avenir du Brexit. J'en termine tout de même avec cet avertissement formulé par The Eye à l'adresse de Boris Johnson. La victoire ce mardi n'est pas encore acquise. Attention au contre-coup qui pourrait venir à nouveau des rangs conservateurs. Certains vieux sages du parti, nous dit le quotidien, mettent en garde contre le fait que des électeurs excédés par ces années de crise du Brexit pourraient vouloir punir les Tories dans les urnes. The Eye ajoute que ces huit dernières semaines, l'administration britannique a enregistré une hausse très forte des demandes d'inscription sur les listes électorales, en prévision donc du possible scrutin de cet hiver. 2 millions de nouveaux électeurs inscrits, plus de la moitié ont moins de 34 ans. Comme quoi, il y a bien sûr une grosse fatigue du Brexit, mais il y a surtout des Britanniques qui n'attendent qu'une chose, qu'on leur donne enfin la possibilité de dire ce qu'ils ont à dire sur le sujet.
Dans le Caucase, la Géorgie a été victime hier d'une cyberattaque qui étonne par sa nature et par son ampleur.
Oui, des milliers de sites web paralysés, parmi lesquels ceux des principales administrations, entreprises et médias de cette petite république d'ex-URSS. Hier après-midi, si par exemple vous alliez sur le site officiel de la présidente géorgienne Salomé Zourabichvili, ce que je fais chaque soir, vous me connaissez, eh bien vous tombiez sur une photo fixe de Mikhail Saakachvili, l'ancien président qui lui a été à la tête de la Géorgie de 2008 à 2013. Cette photo, on la retrouve sur le site de la BBC. On y voit donc Mikhail Saakachvili tout sourire, pouce levé devant un drapeau géorgien sur lequel on a ajouté cette phrase « Je suis de retour ».
Et ce seraient donc des partisans de l'ex-président qui auraient mené cette cyberattaque ?
Alors c'est un peu cousu de fil blanc, mais le journal Viestnik Kavkaza, le messager du Caucase basé à Yerevan, semble bien y croire. Il rappelle d'ailleurs que Mikhail Saakachvili, aujourd'hui poursuivi par la justice géorgienne et exilé en Ukraine, a juré pas plus tard que fin septembre qu'il allait revenir dans son pays pour y laver sauver son honneur et au passage restaurer la grandeur de la Géorgie. Sauf que personne d'autre n'y croit vraiment, les regards se tournent ailleurs, vers la Russie, forcément selon le Washington Post. Car la cyberattaque d'hier, en ce qu'elle expose le piètre niveau de protection du web géorgien, semble porter la signature de groupes de pirates informatiques russes, avec toujours la question en ce qui les concerne de savoir à quel point leurs cibles leur sont ou non suggérées par le Kremlin. La question s'est déjà posée en Géorgie, nous rappelle le Post. C'était en 2008, au tout début de la guerre en Ossétie du Sud et en Abkhazie. L'arrivée des chars russes dans ces deux régions séparatistes s'était accompagnée d'un piratage et d'un blocage systématique de tous les sites officiels géorgiens. C'était la première cyberattaque aussi clairement politique de l'histoire moderne. Celle d'hier était plus massive encore, nous confirme le site spécialisé ZDNet, selon qui environ 15 000 sites ont été touchés et seulement la moitié remise en service ce matin. Voilà qui explique pourquoi je n'ai pas pu vous citer de journaux géorgiens pour étayer cette revue de presse. Mais rassurez-vous, le site de la présidente Zourabichvili, lui, a bien été remis en route et il ne fait aucune mention de ce qui s'est passé hier.
Merci Camille Magnard. Vous allez y retourner de toute façon sur ce site, vous donnerez
c'est ma page d'accueil,
des nouvelles effectivement de ce site demain probablement. Merci pour cette revue de presse internationale. On la retrouve sur le site de France Culture, franceculture.fr.